je voulais revenir rapidement sur la relation qu'il y a entre cette réorganisation de l'enseignement sur la base des compétences et de leur évaluation, et puis l'offensive pour liquider tous les acquis collectifs qui ont été arrachés par les salariés. Bon, depuis, je dirais, cette offensive, elle dure depuis au moins une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Et je pense qu'il faut mettre ça en relation avec le fait que, dans l'histoire, on parlait du capitalisme, Christian parlait des besoins du capitalisme aujourd'hui, mais les besoins du capitalisme, ils ont toujours été d'avoir une main-d'œuvre la moins chère possible. Et dans les organisations qu'ils ont constituées, les salariés ont toujours cherché justement à défendre le salaire, à défendre la valeur de la force de travail, et en même temps, ils ont toujours cherché à faire en sorte que leurs enfants puissent avoir l'éducation, l'enseignement le plus poussé possible. Et donc, il y a toujours eu une relation étroite entre les deux. Puisqu'on est en 2011, ben, je ferai juste une référence à la Commune de 1871, où, par exemple, une des mesures, ça a été d'interdire le travail de nuit des boulangers, et une autre a été de donner la gratuité de l'enseignement, bon, évidemment, à l'échelle simplement de la Commune. Donc, il y avait les deux qui étaient, pour moi, liés, et on peut regarder dans tout le parcours bon, historique depuis, il y a toujours ces deux éléments qui sont présents dans les combats qui sont engagés par les salariés. Et aujourd'hui, c'est justement tout cela que le capitalisme et ceux qui le défendent, les gouvernements, etc., cherchent à complètement disloquer. Et il y a une relation très étroite entre l'offensive qu'ils mènent contre les acquis des salariés pour faire baisser les salaires, pour faire baisser la valeur de la force de travail. Et de ce point de vue, eh bien, il n'y a pas simplement le blocage des salaires, il y a aussi la mise en cause du salaire différé. Et il y a le droit à l'enseignement, parce que le droit à l'enseignement, il coûte cher. C'est soit l'État qui le paye avec l'argent public, mais au lieu d'utiliser cet argent pour enseigner à la masse des enfants, des salariés, il serait bien plus utile, évidemment, et il est bien plus utile de l'utiliser pour enflouer les banques ou autre chose de ce type-là. Ou bien, c'est le patronat qui a été contraint, effectivement, de payer la formation continue par des lois. Et aujourd'hui, évidemment, ils ne veulent plus payer cette formation continue. Et il y a quelqu'un qui a très bien résumé ça, c'est le dénommé Denis Kessler dans son fameux article en 2007, quand il explique tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception, doit être liquidé. Et dans le tout, dans son esprit, il n'y a pas que les acquis des salariés, il y a aussi la question de l'enseignement. Alors, je ne veux pas revenir, mais on peut prendre la liste des lois et des textes qui, au fil du temps, mettent en cause ces deux éléments. Il y a toujours une relation étroite. Et en ce qui concerne le monde du travail, les salariés avaient acquis des grilles de classification par branche qui avaient été codifiées dans les conventions collectives et dans les statuts. Ces grilles de qualification étaient accrochées aux diplômes nationaux et elles évitaient ou elles limitaient la concurrence entre les salariés. Elles faisaient en sorte qu'effectivement, il y ait un certain niveau de salaire pour une certaine qualification qui soit garantie. Alors, c'est relatif, mais enfin, il y avait quand même cette garantie-là. Et ces grilles de qualification, c'est un acquis de 1936 qui a été codifié ensuite dans les arrêtés parodies en 1946, puis dans la loi sur les conventions collectives de 1950 et dans la fonction publique. Évidemment, c'est le statut de la fonction publique qui date de 1946 qui donne effectivement les grilles de salaire qui fait qu'un professeur de 5e échelon à Lille, il a la même paye qu'un professeur de 5e échelon à Marseille. Bien. Et aujourd'hui, évidemment, c'est ça qu'il faut disloquer. J'ai lu dernièrement un ouvrage de Joël Sohir, Le syndicalisme en France, qui rappelle effectivement que le travail est une marchandise. Et le travail, c'est pas uniquement le travail manuel, mais c'est aussi le travail intellectuel. Et aujourd'hui, la place du travail intellectuel, elle a une dimension beaucoup plus importante que celle qu'elle pouvait avoir, en 1871 ou même il y a une cinquantaine d'années. Et c'est pour ça que ce travail intellectuel, il doit être énormément soumis justement aux besoins du capitalisme aujourd'hui. On passe donc de une gestion de ce que l'on appelait autrefois l'administration du personnel à ce que maintenant, ce que demain, ce qui devient maintenant la gestion des ressources humaines. Alors c'est un terme évidemment que je supporte pas, mais bon, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et dans cette gestion des ressources humaines, c'est le salarié qui est responsable de son employabilité, c'est-à-dire qui doit rester employable, qui doit se former et s'auto-former tout au long de la vie pour pouvoir rester au service de l'employeur et faire en sorte que cet employeur puisse rester concurrentiel sur un marché, évidemment, qui est très concurrentiel, beaucoup plus qu'il y a une trentaine d'années. Et dans ce cadre-là, s'inscrivent, évidemment, les bilans de compétences qui rentrent dans le monde du travail à peu près aux alentours des années 1990-2000. Ils sont inscrits dans le PAR, c'est-à-dire qu'ils sont imposés aux chômeurs en 2000. Et puis, ils sont inscrits aussi dans la loi de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est une loi de 2005, dans la loi de 2009 sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie. Et aujourd'hui, le bilan d'étape professionnelle est imposé au chômeur. Si le chômeur refuse de faire ce bilan ou si un salarié refuse de faire ce bilan, c'est ce que nous disait dans un stage une syndicaliste justement du syndicat du SNUTEFI, c'est que le salarié peut être licencié s'il refuse de faire ce bilan aujourd'hui, ce qui est récent, ce qui montre bien qu'il doit obligatoirement rester en bon état du point de vue de sa rentabilité au service de l'employeur. Et l'entretien individuel, que ce soit dans l'entreprise et aujourd'hui dans la fonction publique, rentre dans ce cadre puisque l'objectif, c'est de redevenir à une individualisation, c'est-à-dire à des salariés qui soient concurrents entre eux, de telle sorte qu'effectivement, ça aboutisse à une baisse générale de la masse salariale, une baisse générale des salaires. Alors, il y aura toujours des gens très bien payés, mais globalement, il y aura une baisse générale des salaires si les salariés sont concurrents entre eux. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il me semble qu'il faut resituer le fait que le jeune, lui aussi, doit devenir responsable de son parcours individuel de formation. Et depuis la maternelle jusqu'à l'université. Et dans ce cadre-là, pour le contraindre à devenir responsable de son parcours individuel de formation, eh bien, on a mis en place des lois, et en particulier la loi de 2005 pour le second degré et le premier degré, et la LRU, et le LMD. Le LMD, c'est à l'université à partir de 2002, et la LRU qui a été votée en 2007, pour l'université. Et on a donc un nouveau dispositif qui s'appelle Socle commun pour le premier degré et puis pour les élèves jusqu'au collège, et qui va continuer jusqu'à l'université. Aujourd'hui, Madame Pécresse engage une deuxième vague dans la mise en œuvre de la LRU, une deuxième étape dans la mise en œuvre de la LRU. On a beaucoup parlé de la masterisation et du fait que les enseignants doivent eux-mêmes se former et qu'on a liquidé effectivement l'année de stage où c'est l'État qui payait à ces jeunes collègues qui avaient réussi le concours une année de formation. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants masteriens, ils doivent se former tout seuls et s'auto-former et se payer leur formation. Et bien maintenant, le gouvernement descend au niveau des licences et ils vont en train de mettre en place ce qu'ils appellent des référentiels de formation, c'est-à-dire des cadres nationaux de compétences, et on va reformater toutes les licences à partir de l'évaluation des compétences et non plus de l'évaluation des connaissances. Alors bon, tout à l'heure, je pourrais éventuellement donner un exemple, puisque j'ai trouvé un exemple pour la licence d'histoire-géographie. C'est assez intéressant, mais je voulais terminer en disant que ces référentiels de formation, eh bien, ils sont élaborés, bien sûr, avec la participation du patronat, puisque c'est le patronat qui doit évaluer les connaissances dans l'entreprise, mais c'est lui aussi qui va constituer et construire ces référentiels de formation pour l'université. Mais malheureusement, ça c'est de mon point de vue, ça se fait aussi en relation avec les organisations syndicales, puisque à l'université, dans le cadre du CNESER, une commission a été mise en place pour construire de nouveaux référentiels. Et aujourd'hui, Pécresse s'appuie sur le travail qui a déjà été fait pour aller beaucoup plus loin, évidemment, pour fabriquer ces référentiels de formation. Simplement, je dirais que je ne vois pas comment on peut résister à tout cela sans se fixer comme objectif, ça ne veut pas dire demain matin, mais sans se fixer comme objectif d'aboutir à l'abrogation de toutes ces réformes, parce que qu'il s'agisse de la loi de 2005 pour le premier et le deuxième degré, qu'il s'agisse de la LRU pour le supérieur, ce sont les cadres juridiques qui permettent effectivement de développer toute cette offensive, et que, eh bien, je ne vois pas comment on peut les transformer. On ne peut pas les modifier, ces cadres juridiques. Pour moi, ils sont mauvais de A jusqu'à Z, puisqu'ils redisposent complètement la structure de l'enseignement. Et je ne pense pas aussi qu'on puisse retourner, bon, ce qu'appelait Angélique l'humanisme, il n'y a pas d'âge d'or qu'on aurait perdu, etc., parce que c'est un système économique qui produit ça. Et moi, je pense qu'il faut combattre ce système. Le fait de combattre pour l'abrogation de ces lois qui lui sont indispensables pour survivre aujourd'hui, eh bien, c'est un élément pour rassembler une force et pour accélérer les contradictions de ce système, du système capitaliste, pour passer à autre chose. Et je ne pense pas qu'on puisse retourner en arrière, mais simplement, effectivement, passer à un autre système économique où les hommes aient leur place, effectivement, dans l'organisation de la société, quoi.